à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de cette émission à la découverte de la création sonore et radiophonique. Au programme aujourd'hui, la découverte d'une nouvelle série, une série documentaire cette fois-ci, un documentaire de Pascal Pascariello, une production de arteradio.com en partenariat avec Slate. Nous allons partir dans un monde un peu particulier, celui des braqueurs. C'est le nom de cette série. Braquer une banque, dévaliser une bijouterie, attaquer un fourgon blindé, un casse se prépare comme le tournage d'un film. Trois grands braqueurs vont nous raconter au cours des trois semaines qui viennent leur dangereux métier. Et on commence à découvrir François. Premier épisode de cette série consacré à François, François Troukens, qui grandit en Belgique avec un père ingénieur agronome et une mère professeure dont il déteste le mode de vie écolo-hippie. À 23 ans, il bascule et organise sa première attaque en se faisant enfermer dans la chambre forte.
L'idée, c'était de pouvoir acheter ma liberté et pouvoir vivre comme je le voulais, comme je l'entendais. Bah, je me rendais compte que sans niveau d'études et sans diplôme, bah, je pouvais royalement proposer mes services dans des métiers de subalterne, quoi. Mais j'ai pas voulu vivre ça.
Les braqueurs. François. Épisode 1.
À l'adolescence, je volais dans les magasins des vêtements pour être à la mode. Mais c'était pas du braquage, quoi. C'était vraiment, je m'habillais, je courais. Mon père était ingénieur agronome, ma mère était prof. En même temps, ils étaient assez artistes, mon père chanteur d'opéra également. On a quitté la ville pour aller vivre sur un terrain dans une roulotte pour vivre la culture bio. On est passé d'une éducation normale à un basculement total, radical du jour au lendemain. C'est-à-dire que mes parents nous enlevaient la télévision. Moi, je regardais Goldorak, je regardais des dessins animés. Et du jour au lendemain, plus rien. Ma mère nous racontait des contes de Grimm. Je ne pouvais pas écouter du rock, par exemple. J'avais l'impression parfois d'être un Allemand de l'Est et qui rêvait de tout ce que je ne pouvais pas avoir. C'est le regard des autres qui est compliqué dans ces cas-là. Foncièrement, on était très heureux. La différence me gênait. Voilà. Donc je prenais les belles chaussures et je piquais un sprint. Et puis j'ai arrêté mes conneries jusqu'à l'âge de 23 ans. J'étais garde de corps, donc je travaillais plutôt pour les services de sécurité. J'ai basculé à l'âge de 23 ans en faisant une attaque de fourgon, dans un fourgon dans lequel je travaillais. J'ai eu une idée de me faire engager dans la section transport de fonds, en me disant, je vais étudier le système du transport de valeur pour voir mieux le voler. L'idée, c'était ça. C'était assez déconcertant de voir à quel point on m'avait engagé sans presque de vérification. Il y avait juste des tests d'aptitude au tir. Et tout de suite, en plus, j'étais responsable d'un service trajet, transport. Donc j'avais toutes les données. J'avais exactement combien il y avait dans tel fourgon. Je savais que tel trajet était plus intéressant qu'un autre. Et j'ai commencé à lire pas mal de bouquins sur le grand banditisme, sur des techniques, avec une haine en plus pour les banques, vraiment, puisque quand on est convoyeur, il faut savoir qu'on est le dernier maillon de la chaîne économique et capitaliste. où vous transportez des millions pour un salaire de misère. Donc, je me souviens, c'était l'équivalent de 1200 euros. Avec un petit 38 spécial, c'est une petite arme de poing, face à des mecs qui pouvaient vous attaquer avec des Kalachnikov ou en lance-roquettes. Donc franchement, on risque sa vie, quoi. Et j'avais encore une haine encore plus vis-à-vis de ce système. Et donc j'avais vraiment l'envie de leur faire la nique, quoi. C'était ça. Je transportais des fourgons entre 3 et 4 millions d'euros. Mais il y avait un trajet, mais là c'était compliqué parce qu'on était 3. Où on transportait beaucoup plus. On pouvait transporter jusqu'à 30 millions d'euros. Et donc j'ai réussi à avoir une complicité interne que j'ai petit à petit réussi à convaincre en lui disant « Mais tiens, tu te rends compte l'argent qu'on a là, qu'est-ce que tu feras avec, qu'est-ce que tu pourrais imaginer ?» Puis petit à petit, jusqu'au jour, je dis « Mais on pourrait le faire. » L'idée, c'est que je devais transvaser le contenu du fourgon dans le coffre de la banque, mais il y avait déjà de l'argent dans le coffre de la banque. Donc j'ai transvasé le contenu du fourgon. J'ai ouvert la banque, forcément j'avais les clés. J'ai vidé le coffre et j'ai une troisième personne qui est venue récupérer tout le magot. Donc je me suis fait enfermer dans la banque par mon complice qui a déposé les clés devant la banque. Donc la banque étant fermée à clé, moi étant enfermé à l'intérieur et attaché avec une menotte à un radiateur, forcément ça ne pouvait pas être moi. Ça ne pouvait pas être non plus l'autre complice qui était bloqué dans le fourgon avec des mesures de sécurité. Et pour que ce soit plus crédible, j'ai tapé ma tête sur un radiateur jusqu'au temps que le sang arrive. Et vraiment, j'ai bien tapé, quoi. Je pense que dans ces moments-là, on y va. Et j'ai attendu la police pendant 3 heures. Le sang, mais j'étais attaché au radiateur donc je savais plus bouger. Et c'est con, ils étaient à plat ventre et ils arrivaient tout doucement vers la banque, puisque forcément il y a une alerte donnée, mais ils pensaient que les mecs étaient toujours là, donc ils étaient aux aguets. Ils ont mis 3 heures pour intervenir. C'était quand même beaucoup d'argent, hein. 3 millions et demi d'euros, c'est en plus dans les années 90, c'était beaucoup d'argent. Et j'avais le sentiment que je pouvais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec ça. Donc là, j'ai même pas été interrogé, puisque là, j'étais embarqué en ambulance et la médecin-chef m'a dit « Mais voilà, il a une commotion cérébrale, il peut pas être interrogé, il doit être au calme. » Et puis je l'ai joué aussi après devant des psys, comme quoi je voyais chaque fois les mecs qui me braquaient, les mecs en noir, cagoulés. Et donc ça a été vraiment un jeu d'enfant d'échapper aux questions, suspicions policières. Pendant une année, ça a été, on n'a pas touché à notre argent. Donc, on a tout enterré dans des tubes en plastique, avec des plastiques hermétiques pour que ça ne prenne pas l'humidité, avec, vous savez, les petites boules qu'on met dans les chaussures pour prendre l'humidité. Et puis, on a fait des tests avec des bocaux de cornichons pour faire les conserves. En fait, c'est super hermétique, il n'y a pas de condensation. Et voilà, donc pendant un an, on n'a presque pas dépensé d'argent. On s'est fait des week-ends à Monaco ou dans des pays un petit peu où on était pas repérable et on pouvait faire un peu la fête. Et puis, comme dans toutes les histoires, il y a une mauvaise fin. J'ai un complice qui a raconté l'histoire à sa maîtresse, qui elle-même lui a menacé de le dénoncer s'il ne quittait pas sa femme. Et la femme a dit « Si tu ne quittes pas ta maîtresse, je te balance. » Donc hein, le gars, il s'est retrouvé, il a fait une erreur, bon, d'en parler autour de lui, évidemment. Et il s'est rendu à la gendarmerie avec l'argent en disant « Voilà, c'est moi. » Et donc, il balance et puis il nous met tous les deux dans la merde, quoi. Et mon pote, en fait, moi, j'arrive à le sauver parce que je dis qu'il n'était pas au courant de ce qu'il venait chercher. Il ne savait pas que c'était de l'argent. Et il a pris 6 mois. Aujourd'hui, il est banquier, donc il a pu refaire sa vie. C'est assez gag, quand même, la vie. Et moi, j'ai pris quand même 4 ans ferme. Je rends pas l'argent. J'assume, quoi. Je me dis, je fais la connerie, je vais jusqu'au bout. Je me retrouve en prison à 23 ans. Et en détention, la première semaine de détention, elle est assez catastrophique parce qu'on a l'impression, on se dit, j'ai passé 4 ans dans un univers comme ça. Je suis dans une cellule nue, pleine de béton, et je me dis, je vais jamais tenir, quoi. J'étais à l'isolement, tout seul. Moi, j'étais très proche de la nature, donc... Vous êtes complètement coupé de des éléments, donc vous voyez même plus le soleil, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, on serait venu me chercher, on m'aurait tendu la main en me disant bah, « Refais des études » ou « Change ta vie, on efface l'ardoise ». Je crois que je serais vraiment reparti du bon pied. Et donc, je me retrouve dans une cour de promenade où là, vous faites regarder un petit peu par une centaine de gars. Puis, il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent « On sait qui tu es ». Et bravo pour ce que tu as fait. J'étais assez fasciné, quoi, des stars, du grand banditisme. Et il faut savoir qu'en prison, il y a des catégories. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais les gens du grand banditisme, c'était une race à part, quoi. C'était des seigneurs. C'était des gens. C'était le PSG, quoi. C'est quand vous jouez dans un club provincial, vous arrivez, vous avez les gars du PSG qui vous disent viens jouer avec nous, bah, c'est un honneur. Les gens affiliés au grand banditisme sont capables de monter sur des fourgons. Il y a un maximum une cinquantaine en Europe. Voilà, c'était pas plus. Ce sont des gens qui vont chercher l'argent, comme on dit, la fraîche avec le calibre, quoi. Alors, évidemment, pas chez le particulier. Les agents de change, les transports de fonds et aussi les centrales, les banques nationales ou les centres de triage. Et après, il y a des réseaux de trafiquants qui, pour moi, sont des commerçants qui ne sont pas du grand banditisme. Donc les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les gens qui trafiquent les êtres humains. Voilà, ça sont pour moi des commerçants déguisés en voyous et qui sont parfois plus violents, et souvent plus violents que le grand banditisme en lui-même. Mais forcément, tout est lié, puisque le grand banditisme a besoin d'armes, a besoin d'explosifs, de certaines choses clandestines qui forcément le mêlent à certaines choses. Et donc... Il dit, c'est bien joué, mais tu manques d'expérience. C'est dommage que tu nous as pas connus. Parce que nous, des mecs comme toi, on aurait pu faire affaire. Évidemment, je n'étais pas dupe. Je savais que je connaissais tous les trajets, l'organisation des fourgons. En plus, j'étais spécialisé en explosifs, puisque quand j'étais garde-corps, j'avais une formation pour déminer. Donc je savais bien utiliser les explosifs aussi. Comme je n'avais balancé personne, puisque j'avais vendu des titres. Et je n'ai jamais dénoncé les gens qui m'avaient vendu ces titres, qui étaient des gens du milieu. Ça s'est dit très rapidement. Il faut savoir, dans le grand banditisme, en fait, la seule garantie que vous avez, c'est l'honneur. Et l'honneur permet, c'est votre manière d'avancer, c'est votre CV. Si vous avez fait une enroule à quelqu'un, si vous avez embrouillé quelqu'un, ça va se savoir. Donc c'est une petite famille, c'est des gens... Et on y rentre difficilement. Et j'avais le sentiment d'avoir été accueilli par cette élite. En plus, j'ai une certaine... Je suis respecté dans la prison puisque je fréquente ces gens-là. Et on sympathise. Et puis, la première chose qu'il me demande, c'est si je fume. Je dis non. Il me dit, c'est bien. C'est un peu le mec 45 balais qui s'adresse aux gamins de 20 ans, quoi. Et tu choses du combien? Du 44. Demain, on va te trouver des baskets. Tu vas venir courir avec nous. Et donc, je cours tous les jours une heure à la promenade. Et les mecs, ils me testent, en fait, je le sais pas, mais ils me testent. Donc ils me partagent des secrets, puis il y en a un autre qui vient me parler, pour savoir si je répète. Des tas de choses qui font qu'à un moment donné, c'est des petits trucs pour voir si on est des gens fiables. C'est une manière de tester. Et j'ai été pendant toutes ces années de prison, presque coaché. Tu dois pas faire comme ça, tu ne dois jamais être dans les lieux publics avec les gens avec qui tu travailles, vous devez jamais être ensemble. Quand vous tapez, vous devez vous retrouver ensemble et ne jamais vous séparer. J'apprends aussi, de par mon dossier pénal, quand vous êtes arrêté, vous avez un dossier pénal. Donc la police fait une enquête et vous avez des auditions. Donc vous avez la possibilité de lire après votre dossier. Et vous voyez comment elle a opéré, comment elle a pu, je ne sais pas, tracer une enquête téléphonique, par exemple. Comment elle a pu réussir à vous filer. Donc vous dites, tiens, là, j'ai fait une erreur. Donc c'est des petites choses qui vous apprenez sur le tas. Et puis vous lisez énormément le bouquin de Messrine, le bouquin de François Besse, le bouquin de tous les braqueurs un peu connus, et qui vous racontent leurs erreurs, et qui enjolivent les choses, et donc vous lisez ça un peu comme une espèce d'aventure, c'est des contes modernes, hein. Vous dites, waouh, quelle vie. Et on a envie de leur ressembler, enfin moi en tout cas j'avais envie de jouer ce rôle-là. Donc j'ai rencontré un forum, le forum du crime, où vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous parfaire. Alors j'ai pas fait 4 ans plein, j'ai fait plus de 2 ans. Donc je sors de prison pour bonne conduite. Et quand je sors de prison, je rencontre directement donc des gens à ma disposition qui me manquent. Donc grâce aux gens que j'ai rencontrés en prison, ils me font rentrer dans leur réseau et j'ai tout de suite ce qu'on appelle, je peux former mon équipe. Donc j'ai un spécialiste en vol de voiture, j'ai un spécialiste qui sait me fournir des armes. Je peux trouver par exemple des explosifs, je peux trouver tout ce qu'il me faut pour monter une équipe. Donc je bénéficiais de gens qualifiés, qui étaient aguerris. Le facteur humain, c'est des gens qui savaient faire de la prison sans balancer, qui l'avaient prouvé, donc je me sentais bien entouré. Voilà.
À suivre.
Voilà comment ça commence.
Sur arteradio.com.
Vous êtes toujours sur 48FM dans cette émission dédiée à la découverte de la création sonore et radiophonique avec un documentaire que nous découvrons ce soir en différents épisodes. Un documentaire de Pascal Pascariello produit par arteradio.com en partenariat avec Slate. Nous continuons la découverte de cette série et la découverte de ses braqueurs avec un deuxième épisode concernant François. De 1993 à 2003, François fait partie d'un gang qui attaque les fourgons blindés en Belgique et dans le nord de la France. Une équipe dite à tiroir compte en moyenne 4 personnes. François occupe le poste de chauffeur ou de plastiqueur. Il détaille à quel point un braquage se prépare, comme un tournage.
Je me souviens d'un film, c'était Point Break, je pense. C'est une histoire de surfeur qui braquaient des banques pour pouvoir assouvir leur passion du surf. Un film qui m'a marqué, et je me disais, bah, tiens, ces gars-là, ils ont tout compris, quoi. Alors, ça se termine mal, mais on se dit qu'on est plus malin que les, les protagonistes du film, et que bah, forcément, j'allais faire mieux. Et que le meilleur moyen, c'était de rentrer, de faire le cheval de Troie, c'est rentrer là où il y a de l'argent, étudier le système, et puis faire le gros coup, et je faisais un one-shot, quoi.
Les braqueurs. François. Épisode 2.
Moi, j'ai commencé en 93 jusqu'en 2000, dans les années 2000, quoi. Une bonne dizaine d'années, voilà. Et on braque des fourgons à raison de, je crois que c'est recensé, c'est une attaque par semaine en Belgique et dans le nord de la France. Donc on était vraiment des spécialistes. On était trois équipes. Vraiment des gens aguerris, on était trois, et en France aussi, 3-4 équipes maximum. Et on peut s'échanger des équipes aussi, parce qu'on se connaît tous. Donc ça veut dire que moi, si je suis artificier, je peux l'aider un mec à Marseille, ou un mec de Marseille peut venir. On appelle ça des équipes à tiroir. Je rêvais le braquage toute la nuit. Donc je le visualisais. Et c'est un parallèle même d'ailleurs avec le cinéma. En tant que réalisateur, je me rends compte que quand on est en tournage, on visualise la scène qu'on va filmer. On fait du repérage, on fait un casting, on fait de la préparation et on passe à l'action. Donc c'est exactement pareil. Je pouvais aussi demander à mon équipe de préparer les choses, mais physiquement. C'est-à-dire qu'on jouait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se positionnait, on disait « bon voilà, toi tu vas aller là-bas, tu vas plastiquer. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe des convoyeurs, toi tu surveilles la route de l'autre côté. » Chaque détail compte. Et chacun a un rôle bien défini, comme sur un tournage de film. Si chacun ne remplit pas son rôle, on n'arrive pas à réaliser une prise. L'idéal, c'est un fourgon qui ramasse dans les grandes surfaces parce que c'est de l'argent usagé. Il faut savoir qu'il y a des, à l'époque en tout cas, ou peut-être encore aujourd'hui, pour une raison économique, ils ne ramassaient pas tous les jours. Donc c'est parfois 2 fois par semaine. Mais il était plus intéressant d'aller braquer le vendredi le fourgon que le lundi, évidemment. Ou un fourgon qui sort de la Banque de France. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez avoir de l'argent numéroté qui peut être neuf, trié, empaqueté avec une suite de numéros qui va être contraignante après à écouler. Donc il vaut mieux de l'argent usagé. Une fois que vous avez ciblé le fourgon qui vous intéresse, l'idéal, c'est d'être sur des grands axes. Donc pas spécialement sorti d'une ville, mais pas en ville, quoi. C'est plus compliqué en ville, évidemment. Quoique c'est possible, mais bon. Donc beaucoup de préparation sur l'endroit où on va choisir l'attaque, repérer les lieux par lesquels on va s'échapper, et étudier les moyens que les forces de l'ordre vont pouvoir mettre en œuvre pour essayer de vous arrêter. Donc chronométrer le temps qu'ils vont pouvoir mettre à intervenir, imaginer quelle route ils vont emprunter, etc., etc., etc. c'est un travail. Moi, je considère ça comme un travail. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on travaille tout le temps. Comme on repère plusieurs fourgons, on peut préparer plusieurs casses à l'avance. Donc, vous avez toujours un casse d'avance quelque part. Vous devez situer déjà une bonne planque sécurisée, avec un complice, évidemment, qui peut... par exemple, un fermier, qui vous loue sa grange. Moi, j'avais une technique, je faisais une planque dans la planque. C'est-à-dire, dans la grange, je faisais un mur de paille. Et à l'intérieur des ballots de paille, je faisais une pièce. Donc, je planquais mes voitures, les armes et tout le matériel. Mon équipe dort à la planque pendant toute la préparation du casse. On ne prend pas de risque de se faire filer. Comment je fais ? Je vais faire une contre-filature. C'est-à-dire que les gars vont venir par leurs propres moyens à un endroit de rendez-vous et je vais vérifier qu'ils ne sont pas suivis. Et après, je vais les récupérer avec une voiture volée ou une moto volée. Et je vais les rapatrier dans la planque. Moi, je pense que l'idéal, c'est de 3 ou 4. Il y a un spécialiste qui va conduire le camion, qui fait la circulation, donc il y a une arme évidemment, et il faut un spécialiste en explosifs, forcément. Et deux autres qui vont superviser l'action du mineur. Alors souvent je suis chauffeur ou plastiqueur. Je suis plutôt chef d'équipe, quoi. Donc celui qui organise et qui définit le rôle de chacun. Évidemment, c'est pas une autorité militaire, hein. C'est tiens voilà, j'ai repéré tel fourgon, à tel endroit, et puis chacun donne son avis. Il y a mille façons de braquer un fourgon. On peut mettre un câble, on peut miner la route, on peut faire plein de choses. Et après, on va peser le pour et le contre et se dire, bah tiens, cette technique-là est la plus adaptée. Le but, c'est d'obtenir un résultat, et celui qui a l'idée la plus valable va l'emporter, évidemment. Quand on est tous réunis, donc on est quatre, chacun va travailler à un poste bien défini. Il y en a un qui va préparer les clous, l'autre qui va mettre les, qui va essuyer toutes les balles, qui va essuyer les armes, qui va enlever toutes les possibilités d'ADN, etc. Donc il y a des tas de techniques, mais qui évoluent en plus, hein. Il faut savoir que à l'époque c'était surtout les empreintes. Ça a commencé en 95 l'ADN. On faisait quand même déjà attention à la salive, parce qu'on entendait déjà qu'il y avait des tests. Donc on apprend à scotcher la salopette avec les gants, avec du double face, pour empêcher qu'il y ait de l'air et des poils ou de la morceau de peau qui puisse tomber. On met une double paire de gants. Et c'est un peu comme une opération chirurgicale. Et on faisait une chambre de décontamination. C'est-à-dire que les armes, tous les gilets pare-balles, tout ce qu'on utilisait, était mis dans une tente au milieu de la planque. On passait tout ce qu'on touchait avec de l'ammoniaque dilué à l'eau. Parce qu'en fait, ça tue l'identifiant ADN. On fait très très attention. Parce que la moindre parcelle d'ADN peut nous faire tomber. Il y a un gros travail aussi, il faut faire des doublettes de plaques. La voiture avec laquelle on va circuler va avoir la même plaque qu'un véhicule, la même couleur, la même origine, etc. Ça permet, si la police vous fait un contrôle sur la route, inopiné, en tapant le numéro de plaque, ça passera plus facilement, vous évitez un contrôle, quoi. Voilà. Donc on va aller pousser ce vis-là pour avoir un véhicule qui soit conforme. Il y en a souvent un qui est plus manuel que d'autres, qui va s'occuper de blinder les portières, désosser les panneaux de porte et mettre des rivets donc avec des plaques de métal. Pour éviter, si jamais on se fait tirer dessus, d'être blessé. Donc, une fois qu'on a tout ça, prêt à taper. C'est tellement impactant émotionnellement. La scène est tellement jouée dans sa tête, mentalement, que dès que ça, qu'on dit action, tout est au ralenti. Donc, c'est-à-dire que mon rythme cardiaque diminue, je positionne chaque personne et je vois chaque détail. Les sons sont ralentis. En fait, c'est une concentration optimale. Tous vos sens sont aux aguets, quoi. Vous êtes comme un animal qui chasse. Prenez un chat qui va attaquer une souris, c'est un peu pareil, quoi. On sait que le fourgon va passer, en général, il a un créneau d'horaire de 15-20 minutes. On sait qu'il va passer à tel endroit, à tel endroit. On va mettre le pilote du camion face au fourgon. Et la voiture de fuite va précéder le fourgon. Et renseigner le chauffeur du camion, nos intentions, il arrive sur toi, il est là dans deux minutes, et donc on le précède d'une ou deux voitures, et on va faire en sorte qu'on va ralentir la circulation pour que quand le camion va croiser le fourgon, il va pouvoir le percuter à la vitesse adaptée. C'est pas évident, il faut savoir doser comme le camion fait 40 tonnes, si vous allez trop vite, vous allez écraser le fourgon ou l'envoyer dans le décor. Le but, c'est juste de l'endommager, de l'empêcher de rouler. Donc il y a une bonne technique de frappe et en général c'est toujours la même personne qui faisait ça. Puis alors il y a des petites anecdotes. J'avais un ami qui est décédé aujourd'hui sur une attaque de fourgon. Il faisait son petit signe de croix à chaque fois qu'il tapait un fourgon, il était sicilien. Et Dieu ait son âme, mais cet imbécile a loupé le coup parce que le temps qu'il fasse son signe de croix, qu'il baisse sa cagoule, il a tapé le fourgon, mais un peu trop tard, et il a réussi à s'échapper. C'est-à-dire qu'il a percuté contre un mur, il a rebondi sur la route, il a réussi à partir. Et je me souviens l'avoir engueulé comme du poisson pourri en disant « Mais tu crois vraiment que Dieu va t'aider ?» Je conduis la voiture en général, je précède le fourgon, et j'y go. Donc il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre, je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Donc pour leur montrer que avec leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais le tout, c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif pour faire péter le coffre. Donc la technique là, qu'on a mis au point, c'est un cadre d'explosif qui va éventrer le fourgon d'une manière chirurgicale et en même temps qui va éventrer le coffre. Donc vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts. Mais il y a eu des cas où il y a eu des convoyeurs qui se retrouvaient derrière la paroi, donc forcément ils sont morts, quoi. Donc il faut en général les prévenir, leur dire on va mettre une charge, ils se couchent sur les coudes et ils ouvrent la bouche. Et donc ça permet de ne pas avoir de blast, de ne pas avoir un choc au niveau des poumons. Ça explose, vous mettez à l'abri. Il y a des éclats qui vont dans tous les sens, comme une grenade en fait, qui explose. Vous avez une fumée noire qui tout de suite monte dans le ciel. Toutes les sirènes des bagnoles se mettent à gueuler. Les vitres ont été soufflées. Donc vous avez vraiment... C'est vous transformez un univers paisible en une zone de guerre, quoi. L'opération va durer 3 minutes maximum. On met un chrono et on écoute les forces de l'ordre sur un scanner. On sait dès que les convoyeurs vont lancer l'alerte, ils vont appeler leur centrale et la centrale va appeler la gendarmerie ou la police. Et vous avez des hélicoptères qui vont se mettre en route, le plan EPV qui se met en place. Donc ça va très très vite. Vous couvrez celui qui va rentrer dans les entrailles du fourgon pour aller chercher les sacs. Et on fait une chaîne. Et les autres vont charger le coffre du véhicule en mettant tout dans un grand big bag. Une espèce de grand sac pour mettre du sable, vous voyez, quand même une capacité de 500 kg, quoi, et vous chargez un maximum. Et puis je remonte dans le véhicule, je mets le gyrophare, et on a une plaque police lumineuse sur le pare-soleil, donc les gens pensent vraiment qu'ils vont faire des flics, quoi. Et ça vous permet de dégager très très vite et de gagner du temps. Si jamais manque de bol, il y a une patrouille qui passe à ce moment-là, alors soit il y a deux solutions. On évite le coup de feu, mais s'il faut vraiment, on s'arrête et on tire, quoi. Voilà. Donc le but, c'est de ne jamais commencer une poursuite. Il vaut mieux s'arrêter, sortir et allumer, quoi. En général, ils reculent et ils s'en vont. Puisqu'ils ont des armes de guerre et eux sont équipés avec des armes qui sont moins efficaces, quoi. Alors pour parler aussi le problème, et ça c'est des choses que j'apprends, on fait des clous à trois pointes qui vont tomber sur la route dans tous les sens, ils vont se mettre toujours avec une pointe vers le haut. Les poursuivants, donc les forces de l'ordre, se prennent les clous et ne peuvent pas suivre. Et vous prenez un chemin de fuite qui est déjà programmé, qui est chronométré, et on peut, en faisant un changement de voiture, ce qu'on appelle un relais, rapidement changer de véhicule, lui mettre le feu dedans, avec un retardateur de feu, pour que les forces de l'ordre ne retrouvent pas tout de suite le véhicule incendié. Et on reprenait un véhicule qui est souvent un 4x4 ou un véhicule plus discret. Et ça permettait de partir, souvent même revenir vers le lieu du casse. Donc les flics pensent jamais qu'on peut revenir vers le lieu du casse. Et mon idée, c'était revenir dans l'épicentre et de trouver une planque à moins de 5 km. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est il faut faire attention aux bip traceurs dans les fourgons. Vous avez des détecteurs GPS qui peuvent être mis dans les pochettes. Donc ce qu'on fait, on fait des coffres tapissés avec du plomb, une espèce de caveau avec un couvercle. Donc on laisse un mec dans le trou et lui il va avec une lampe ouvrir chaque pochette, trier mettre le fric dans des sacs, regarder s'il n'y a pas une puce qui est cachée dans les liasses ou dans une pochette. Et une fois que tous ces points ont été remplis, que l'argent est en sécurité, Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de coup de feu. Alors là, il y a un soulagement et il y a une jouissance. La jouissance arrive à ce moment-là. C'est une jouissance proche de l'orgasme. J'ai une endorphine tellement forte qu'il faut que j'aille courir. Avoir un acte sexuel, ça permet aussi de libérer les tensions et de vite penser à autre chose. Mais du début de l'opération jusqu'à la fin de l'opération, pour moi, c'est un maximum de stress et il n'y a aucun plaisir. Même en le parlant, là, je le revis. C'est très marrant, puisque je le c'est quelque chose qu'on ressent. C'est un état d'esprit, en fait. Je pense que c'est très similaire à un mec qui est sur le front de la guerre, quoi. Quand il revient, il est content d'être en vie. Et il a parfois envie d'y retourner parce qu'il y a un côté, il y a une adrénaline qui s'est dit, ouais, j'ai frôlé la mort, j'étais très très loin, mais j'étais plus fort qu'elle. Donc ça, c'est jouissif. Alors l'avantage du soldat, c'est que le soldat, le pauvre, il a 100 euros de solde. Il y a quand même un magot, quoi, derrière. Si vous faites un fourgon qui a, mettons, 1,5 million, vous êtes 4, ça vous fait 300-400 000. Il y a un effet typique, et ça c'est typique à tous les braqueurs, il y a une envie de dépenser. C'est-à-dire qu'on va accéder au rêve. Et ce qui est dangereux, puisque forcément il ne faut pas changer de train de vie. Soit vous voulez changer en or, en pièces d'or, soit vous prêtez de l'argent à des amis aussi. C'est-à-dire endetter des amis. L'idée c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous ouvrez un commerce... Je suis quelque part le propriétaire du restaurant, mais vous faites fructifier l'affaire. Voilà, le jour où l'affaire est rentable, vous me remboursez de manière légale, quoi. Ça s'appelle blanchir du fric. C'est des techniques, voilà. J'ai des amis qui ont braqué des fourgons, qui n'ont jamais été attrapés, qui ont pu monter une affaire. Et aujourd'hui, ils vivent toujours du fruit de braquage. C'est-à-dire qu'ils ont fait un coup et c'était bon, quoi, ou deux, et puis voilà. Le problème, c'est que quand vous êtes repéré, et en l'occurrence, moi, j'ai été arrêté. En 96, je suis accusé d'une attaque de fourgon où il y a un convoyeur qui a perdu une jambe. Et c'est une attaque que je n'ai pas commise. Le problème, je braque des fourgons. Donc forcément, c'est difficile de faire la part des choses, de dire, bah oui, celui-là, je ne l'ai pas fait, mais celui-là, je l'ai fait. Donc le mieux, c'est de ne rien dire. Et je me suis évadé. À partir du moment où je me mets en cavale, je veux dire qu'aujourd'hui, vous gagnez 1 million d'euros. Dans une vie normale, c'est très facile de faire fructifier cet argent. Vous achetez une maison ou un appartement, vous avez des revenus locatifs. Quand vous êtes en cavale, c'est fini. Tout est fragile. Et donc, ça demande plus d'argent, ça demande plus de structure, ça demande de... Et pour vraiment pouvoir être, voir venir, comme on dit, et être à l'abri, ben, il vous faut énormément d'argent. Quand vous prenez 1 ou 2 millions d'euros, même chacun, ça paraît énorme, c'est beaucoup d'argent. Mais ça ne vous permet pas de changer de vie. Si vous avez 10 millions d'euros malhonnêtes, c'est l'équivalent d'un million d'euros réellement, quoi. Donc vous imaginez la quantité d'argent qu'il vous faut pour vraiment être à l'abri, à vie en plus. Parce que quand vous êtes en cavale, ça s'arrête pas. Vous êtes poursuivi jusque pendant 30 ans, quoi. Donc il faut mettre de l'argent de côté pour toute votre vie. Donc on vivait comme des militaires sur des lits de camp pendant toute l'opération jusqu'à la fin. Et puis chacun partait dans une direction opposée et on se retrouvait... genre un mois ou dans 2 mois pour remonter une opération. Donc vous avez une espèce de course contre la montre en disant mais il faut que je braque un maximum, que je fasse le gros coup, et une fois que j'aurai suffisamment d'argent, j'arrête tout. Et ça c'est un rêve, c'est une utopie, parce que le casse fabuleux, vous prenez voilà, une centaine de millions d'euros, et vous dites j'ai de quoi devoir venir et je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie.
À suivre sur arteradio.com.
Ben, il n'arrive jamais ce casse.
Vous êtes toujours sur 48FM et dans cette émission à la découverte de la création sonore et radiophonique. Et cette création que nous découvrons, c'est un documentaire de Pascal Pascariello, une production d'arteradio.com en partenariat avec Slate. Et nous continuons à découvrir l'un de ces braqueurs, François, dans son épisode 3. En cavale, François travaille dans la culture, sous de fausses identités. Alors que son petit garçon grandit, il doit faire un choix difficile. François est arrêté à Paris en 2004. Passionné par le cinéma, il reprend en prison des études de lettres modernes. À sa libération, il écrit des scénarios de BD et réalise des courts-métrages. François Troukens a créé l'association Crise à Libre pour rendre accessible l'instruction et la culture en prison.
Le braqueur, par définition, c'est accéder à une place dans la société qui ne l'aurait pas réservée. Ce qui fait, qui motive, c'est le changement de statut, c'est de vouloir accéder à une vie qu'on imagine exceptionnelle. Et évidemment, il faut y aller pour se rendre compte que ce n'est pas spécialement le bonheur.
Les braqueurs. François. Épisode 3.
Moi, j'ai tenu pendant presque plus de 7 ans de cavale. Donc, c'était 3 semaines de vie commando. Boum, j'arrêtais. Je redevenais soit éditeur ou consultant en informatique, expert en immobilier. Enfin, voilà, j'avais des étiquettes et je rentrais dans cette vie-là. Mais vraiment. Et ça me permettait d'oublier complètement, de me renourrir d'autres choses aussi. Et de pas vivre dans cette tension permanente, quoi. Parce qu'en fait, vivre en cavale, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Et plus on le vit bien, si on est presque avec pignon sur rue, on oublie presque. J'aurais sursauté presque si on m'avait appelé par mon vrai prénom. C'est comme un acteur, quoi, qui joue un rôle et qui se dit « je suis cette personne ». Donc c'était deux vies, c'est schizophrène, mais en même temps, ça m'a permis de vivre comme ça pendant quelques années, quoi. J'avais plusieurs noms, j'avais Franc-Vert, j'avais... des noms d'emprunt, je ne vais pas les citer parce que les gens qui sont vraiment des gens connus. En fait, le principe, c'est de prendre une doublette de leur identité, de me faire des vrais papiers avec leur identité. C'est de permettre de voyager, d'avoir un passeport, d'avoir tous les documents nécessaires. Moi, je dis que la cavale, c'est l'école du civisme aussi. Puisque vous roulez à 120, vous mettez votre ceinture, vous respectez les feux, vous ne faites pas de grabuge avec les voisins, vous n'allez pas commencer à mettre de la musique à 22h pour... On fréquente des gens plutôt bourgeois, qui ont une vie bien installée, qui sont au-dessus de tout soupçon. Et c'est ce que je faisais, en fait. Il faut une couverture qui permet de justifier mon train de vie. Donc je vous donne un exemple. Si je vais, par exemple, au Venezuela et je fais du cheval, j'ai 3-4 chevaux de course, je vais fréquenter des gens qui font aussi du cheval et qui sont dans ce milieu-là. Je m'invente une vie, quoi. Mais il faut que ma vie corresponde à une réalité. Et donc ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je vous dis qu'entre le jeune braqueur de 22 ans qui a des rêves d'extrême gauche et de vouloir changer le monde, après je suis devenu un civiste bourgeois qui s'enrichissait, qui finalement voulait avoir sa place dans la société. Donc le fait de frayer grâce à l'argent et peut-être une position sociale avec des gens finalement qui avaient une position dans la société, je ne voulais leur ressembler, donc j'étais très heureux de les fréquenter. Et donc il n'y avait pas de lutte, c'était complètement... la jouissance de la vie, quoi. Je résumerais ça à ça. Une vie de braqueur, c'est ça. Hein. C'est jouir de l'instant. Après 50 cavales, j'ai une fusillade avec la PJ. En gros, je suis arrivé chez quelqu'un qui était en pleine perquisition. Les flics ne savaient pas qui j'étais, ont voulu m'intercepter. Moi, j'ai pris peur. En voyant des types armés, j'ai cru que c'était des mecs qui me voulaient... Dans le romantisme, on peut aussi avoir des ennemis. Et donc, forcément, on est assez méfiant. Et quand j'ai vu des types armés me foncer dessus, j'ai pas posé 1000 questions. J'ai entendu coup de feu, je me suis échappé, quoi. Voilà. Et en fait, il y a une poursuite dans un bois, j'ai pu m'échapper. Et il y avait des gars qui étaient beaucoup plus aguerris, enfin, qui couraient très très vite, et qui a pris de la distance par rapport à ses collègues. On s'est retrouvé tout seul dans ce bois, face à face. Et j'ai tiré une balle dans chaque jambe, quoi. J'ai tiré deux fois. Il s'est écroulé. Je me souviens très bien du sang que j'ai vu gicler, du hurlement de la personne. Et là, on est plus dans un rapport flic-voyou. On est face à deux êtres humains au milieu de nulle part. Toutes les images qui vous surmontent, l'adrénaline qui la langue gonfle. On n'arrive plus à respirer. Et on se dit, je savais pas si je l'avais plus tué, si je l'avais blessé, ce qui, je l'entendais hurler, je vais mourir. Et voilà, c'est un cri d'horreur, quoi. C'est quelque chose de, c'est assez terrible de se rendre compte qu'on est la cause de ça. Et on a presque envie d'aller l'aider, quoi. C'est très bizarre comme réaction. Et je pense à mon petit garçon à ce moment-là, et je pense à me sauver. Bon, les balles sifflent, ça tire, je dévale un talus, je tombe au milieu de l'autoroute et je braque un véhicule au milieu de la route. Il y a un type qui s'arrête, vu que je suis de la police, il me donne son véhicule, il sort, là, il y a des impacts de balles qui vont se percuter dans les voitures. Enfin, je me dis, j'échappe à la mort, quoi. Après, j'ai appris évidemment que c'était un officier de la police judiciaire. Je me suis dit, là, je sais que si tu continues, tu vas tuer. À partir du moment où j'avais tiré sur un officier de la police judiciaire, c'est pire que de violer un enfant. Vous êtes recherché par la police internationale, par Interpol, par Europol, vous êtes recherché dans le monde entier, mais activement. Et il y a une espèce de chasse à l'homme qui se met en route. Et donc là, vous savez que si vous êtes armé, que ça va ferrailler, quoi. Ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que quand vous mettez une charge sur un fourgon, quand vous percutez un fourgon avec un camion, quand vous tirez à l'arme de guerre en direction d'une voiture de flic qui vous poursuit, même si vous tirez dans le capot ou vous visez les pneus, une balle de guerre, ça a une portée mortelle à plus d'un kilomètre. Et tant que vous ne voyez pas le sang gicler, la personne en face de vous blessée, y a pas de prise de conscience, je crois. Bon, ils vous tirent dessus aussi, donc c'est un jeu, quelque part. On ne cherche pas à les tuer, on cherche juste à stopper la poursuite. Mais c'est beaucoup de chance, évidemment. Je ne pensais jamais faire couler le sang. Et je l'ai fait. Et j'ai abandonné mon flingue, quoi. Donc comme j'avais envie de vivre, et que j'avais pas envie de tuer, j'avais pas envie d'être un meurtrier, et que je me dis, je vais vivre en cavale de manière... me fondre dans la masse, essayer de vivre comme ça, avec ce que j'avais évidemment comme argent planqué, et de me débrouiller pour ne plus aller en reprendre, parce que c'était une chaîne sans fin, en fait. Plus vous prenez de l'argent facilement, plus vous le dépensez facilement. Donc à partir du moment où vous décidez d'arrêter... Vous avez un budget, vous dites, il faut que je monte une affaire, que je trouve un moyen de vivre en cavale. Et j'ai monté une maison d'édition, j'ai commencé à vendre des livres et vendre du para-BD, donc des planches de BD, racheter des planches de BD à des auteurs de BD. Ce qui m'a permis aussi de me rapprocher de ce milieu artistique que j'avais quitté. Et ce qui m'a permis de bien vivre pendant toutes ces années. Et en même temps, d'avoir une couverture, puisque je disais que j'étais éditeur et marchand d'art. Et j'ai pu rencontrer une personne qui m'a vraiment aidé aussi, c'est José Giovanni, qui est un réalisateur français, un ancien truand, qui a d'ailleurs écrit un film en prison qui s'appelait Le Trou. Puis il a fait Deux hommes dans la ville avec Jean Gabin et Delon. Et lui m'a encouragé à écrire et à laisser tomber, entre guillemets, le grand banditisme pour me lancer dans l'écriture de cinéma. Et en même temps, je crois que je me suis auto-suicidé, parce qu'en venant à Paris, c'était une manière de... Je pense que j'en avais peut-être un petit peu marre aussi. J'avais un gamin qui avait 6 ans. Je commençais en plus à écrire de plus en plus pour le cinéma, donc j'avais de plus en plus de rencontres dans des lieux, entre guillemets, où on pouvait me repérer. J'étais assez reconnu en Belgique, et mon visage circulait dans tous les bureaux de flics, donc je prenais des risques dingues. J'avais pas envie, mais je savais qu'inéluctablement, ça allait arriver. Et que ça allait être compliqué et long, mais que j'allais pouvoir ressusciter. Je commençais à avoir une vie honnête, et tout était faux. Donc j'avais l'impression de monter une pyramide sur un château de cartes, quoi. Je savais que j'allais payer un jour. Alors soit à 50 ans ou à 60, mais un jour j'allais payer. Et l'autre truc aussi, c'est que je voulais profiter des moments de... J'avais un gamin... qui était né quand j'étais en cavale. Et j'avais l'impression de pouvoir me nourrir de sa petite enfance, en tout cas, qui se nourrisse de moi. Et ces années étaient vraiment fondamentales, et je crois que je me suis battu pour avoir ça. Et, parce que je me disais, rentrer en prison avec un gamin qui a 2-3 ans, il oublie son père, il ne sait plus qui il est. Et là, en l'occurrence, il avait 6 ans quand je me suis fait arrêter. Et on a pu continuer à avoir un lien, tout en ayant cette mémoire vivante, de ce qu'on avait pu vivre dans tous ces pays. Et je pense que ça nous a permis de traverser l'épreuve aussi ensemble. Donc quand je me suis arrêté, je me suis arrêté à Paris, en fait, avenue Montaigne, en face d'RTL, en 2004. J'ai eu une poursuite dans la ville. Je me suis réfugié dans un appartement en disant à une femme que j'étais de la police. Et je me suis planqué chez elle pendant plusieurs heures. Et les flics ont ratissé tous les appartements aux alentours. Et finalement, elle a pris peur, elle a cru qu'un flic était un des voyous recherchés, parce que j'avais dit qu'il y avait un voyou qui était recherché dans le quartier, et que j'étais là pour la protéger. Et en fait, elle est en... Donc ça durait pendant des heures, et elle me prépare un thé. Moi, je suis planqué en regardant ce qui se passe par la fenêtre. Et puis, pendant que je fais ça, elle est de l'autre côté de l'appartement, elle voit un type qui la braque avec une arme, elle croit que c'est le braqueur, mais en fait, c'est un flic. Donc elle quitte l'appartement, elle descend les escaliers, quand elle arrive en bas, elle crie « je suis avec votre collègue, je suis avec votre collègue », et là, j'entends que ça gueule, et puis un silence de mort. Et puis, petit à petit, j'entends qu'il monte dans les escaliers, moi je barricade la porte, et il me crie par le mégaphone « balance ton arme, jette ta grenade, jette ton flingue », j'ai absolument rien, donc je me dis « si, ils vont allumer, quoi ». Et comme j'ai un pédigré que j'ai déjà tiré sur un flic, je me dis « ils vont pas me louper ». C'est l'OCRB, l'Office du grand banditisme français. Et j'ai la présence d'esprit d'ouvrir le carreau et je vois un journaliste d'RTL et je lui dis « Regarde-moi, j'ai pas d'arme. » Et il me dit « Ouais, je te vois, t'inquiète pas. » Je dis « Ils veulent me tuer. » Je suis certain que je vais me faire allumer, quoi. Puis il y a une espèce de longue tractation. Et lui, le journaliste fait le lien avec le commandant en bas. Et puis finalement, de longues heures, je me fais arrêter, je reçois des coups de matraque au moment où je me fais arrêter. Et je me réveille sur les Champs-Élysées, en train de remonter fond de balle vers Nanterre, à l'OCRB. Voilà. Comment ça se termine. Ah ben là, je me retrouve à la prison de la santé, en haute sécurité. Et puis, je me rends compte que ça va être compliqué à gérer. Je me sais que j'ai pris 30 ans de prison, enfin 28 ans exactement, pour une attaque de fourgon. Donc toujours l'attaque que je m'étais évadé, que j'avais pas commise. Je sais que j'ai la fusillade avec les flics, plus des dizaines et des dizaines de braquages. Et je me dis, soit tu peux t'évader, mais ça va être violent. Ça va être une cavale encore plus violente. Je pense que je suis un peu fatigué de tout ça et je me dis, j'ai pas envie de finir comme ça. J'ai autre chose à faire et j'ai surtout pas envie de laisser un gamin qui pourrait dire que mon père c'est un tueur, quoi. Je trouve que là, déjà, c'est déjà pas mal. Donc l'autre option, c'est le suicide. Je suis pas suicidaire. Et la troisième option, c'est accepter la prison, mais à condition qu'elle soit bénéfique. Et j'ai une chance, Inouï, c'est une association qui vient me trouver dans ma cellule et qui me propose de faire des études. Et je commence à étudier. Et là, je trouve une nouvelle une évasion mentale dans l'étude littéraire. Je fais une licence en lettres modernes. Mes amis qui étaient dans le milieu du cinéma me soutiennent, m'encouragent, dans la bande dessinée aussi. Je suis extradé en Belgique, où finalement, je suis rejugé de 28 ans, je retombe à 15 ans. Je suis acquitté pour une série de braquages, dont peut-être il y en avait que j'avais commis. D'autres que je n'avais pas commis, qu'on m'avait aussi mis dans... C'est ça le problème, en fait. À partir du moment où ils vous disent il y a 50 attaques de fourgons, c'est lui qui les a fait les 50, même si j'en ai peut-être fait que 30, quoi, voilà. Mais j'en ai quand même fait 30. Ce qui a payé, c'est moi qui ai changé. J'ai décidé de changer, de dire, voilà, j'accepte de payer le prix, mais je veux me former, et je veux sortir d'ici grandi, avec un bagage, et certainement pas diminué. Foncièrement, j'étais devenu quelqu'un, je m'étais transformé personnellement. Et je pense que ça s'est ressenti. J'ai pris 19 ans, au total. Et j'ai fait 10 ans. À partir du moment où j'acceptais la détention et pas de m'évader à nouveau, il était impensable que je récidive en sortant. Donc je me suis complètement éloigné de ce milieu. J'ai commencé à fréquenter même en prison des gens qui étudiaient, qui étaient dans les mêmes dispositions, dans le même état d'esprit. Je vous assure que passer autant d'années et puis se battre pour avoir un diplôme et réussir plusieurs diplômes, c'est chaque fois une étape. Et puis mon fils aussi, qui m'accompagne également, mais principalement mon fils avec qui je m'étais engagé, c'est-à-dire qu'il est venu me voir quasiment toutes les semaines au parloir. J'avais vraiment pas envie de lui faire vivre toutes ces années pour après, bêtement, aller me tout flinguer en un instant pour de l'argent, quoi. J'ai perdu un ami complice en 2012, Il a fait une attaque du fourgon en France, du côté de Charleville-Mézières, où ils ont plastiqué la route, c'était assez violent. Donc la charge a explosé, il s'est mal positionné. Et il y a un morceau de charnière qui est allé se loger dans son oreille, il est décédé sur place. Et c'était un garçon, un bon gars, qui avait raccroché pendant au moins 10-15 ans. Et qui est remonté au charbon, comme on dit, avec des plus jeunes. Et il a voulu refaire un coup. Peut-être une manière de ne pas vieillir, de ne pas vouloir accepter de changer de vie. Et il s'est dit, je vais remonter sur un coup. Et voilà, ça s'est mal terminé pour lui. C'est ça. Je me dis, j'aurais pu en faire partie, quoi. J'aurais pu continuer à vivre dans ce milieu-là et me retrouver à 50 ans avec des 20 ou 30 ans de prison. C'est-à-dire, vous finissez vos jours en prison, quoi. C'est quand même très triste. Je suis sorti de prison en 2010 et j'ai trouvé tout de suite un éditeur qui était Le Lombard, donc un éditeur belge de bande dessinée, où j'ai signé un premier album en tant que scénariste. Et après, j'ai eu la chance j'ai commencé à écrire pour le cinéma et j'ai proposé un scénario dans une boîte de production belge qui est Versus Productions et qui m'ont proposé d'écrire et de réaliser un film. J'en suis à mon deuxième et il y a un troisième en route. Ça a mis 10 ans, plus que 10 ans, puisque j'ai commencé, on va dire, un travail depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui 2015. Un travail sur moi, de changement profond. Mais il a fallu tout ce temps pour arriver à ça, quoi. Je vis beaucoup moins de moyens qu'avant. Enfin, j'aime pas le mot, mais j'ai des idées plutôt d'extrême gauche, c'est-à-dire que l'argent m'intéresse plus. Et c'est la création qui m'intéresse. Et je retrouve une excitation beaucoup plus forte encore que le banditisme. Quand vous créez et que vous libérez une œuvre, bah, à un moment donné, vous avez ce même orgasme que je pouvais retrouver sur un braquage, en tout cas dans la réussite d'un braquage. Et en fait, c'est une espèce de libération d'endorphine qui vous dit « je peux avoir tout ce que je veux ». Mais vous n'allez pas chercher tout ce que vous voulez, vous ne pouvez même pas. Quand vous vous libérez ça dans la création, c'est une jouissance qui est beaucoup plus longue. Et je pourrais comparer un orgasme sans amour et un orgasme avec amour. Voilà. Je dirais, si je pouvais refaire sans me faire prendre, c'est une vie intéressante. C'est une vie très, très enrichissante sur le plan des rencontres, des voyages. Justement, le fait aussi d'avoir connu beaucoup d'argent très jeune, ça permet aussi de vivre les choses autrement aujourd'hui. J'ai vécu pendant toutes ces années comme si j'avais un cancer et que j'allais mourir le lendemain. Donc on vit le jour comme si c'était le dernier. Donc c'est jouissance pour tout. J'ai adoré cette vie, hein. J'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Je fais pas l'apologie du banditisme parce que c'est une époque révolue. Le braqueur tel que j'ai pu en connaître et peut-être en faire partie à un moment donné, c'est une voie en extinction. Elle n'existe plus. Mais c'est vivre puissance 10.
Arte Radio.
J'ai deux vies. J'ai eu cette vie-là et maintenant je suis quelqu'un d'autre. Je suis toujours capable évidemment de porter une arme et de braquer un fourgon. Je crois que ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Mais pourquoi? Quel intérêt?
Voilà, c'était une première partie de cette série documentaire de Pascal Pascariello, produite par arteradio.com en partenariat avec Slate, intitulée Les Braqueurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir 5 épisodes autour de Mickey, un autre personnage, un autre braqueur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ces émissions et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.